je répète, parce que j'avais pas le son. Ce message ce matin est en l'honneur de nos frères et sœurs qui n'ont pas honte de l'Évangile. Et ce message n'est pas directement pour nous, il est pour ceux qui souffrent aujourd'hui encore pour l'Évangile. Alors vous allez me dire, mais moi je suis venu pour entendre un message pour moi. Eh bien, pour une fois n'est pas coutume, ce message est en l'honneur d'autres chrétiens. Mais vous allez voir que indirectement, bien sûr, nous allons être bénis en entendant parler de ces personnes. Et nous allons être, j'espère, motivés, touchés dans notre foi. J'aimerais vous lire quelques versets de la parole de Dieu qui nous invitent à penser à ces frères et sœurs persécutés. Dans Hébreux 13, verset 3, je lis ceci. « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. De ceux qui sont maltraités, comme étant vous-même dans un corps. » C'est-à-dire, mettez-vous à la place de ceux qui sont en ce moment même en prison pour l'Évangile. La persécution des chrétiens n'a jamais été aussi forte au XXe siècle et maintenant au XXIe siècle. Elle ne cesse d'augmenter chaque année. Les pays les plus persécuteurs varient. En ce moment, c'est toujours la Corée du Nord, mais l'Afghanistan et le Pakistan sont en pleine croissance de persécution. La Chine est en train d'être un peu plus tolérante, mais pas totalement. Mais quoi qu'il en soit, être chrétien dans la majeure partie du monde est dangereux. Nous avons ce privilège en France d'avoir la liberté de culte et de conscience. Remercions Dieu et prions pour nos autorités, mais ce n'est pas le cas ailleurs. Un autre verset, 1 Corinthiens 12, verset 26. « Si un membre du corps souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Le corps, c'est tous les enfants de Dieu sur la terre. Si un membre souffre, nous souffrons, nous devons souffrir avec lui. Ce qui est triste parfois, c'est que justement, les chrétiens confortablement installés dans leur pays libre et bien loti ne pensent plus à ces frères et sœurs persécutés et on les oublie et on ne souffre pas avec eux parce que eux, ils souffrent beaucoup. Mais j'aimerais aussi qu'on se réjouisse avec eux parce que dans leur souffrance, ils ont de la joie et des victoires. Colossiens 1, 24. C'est l'apôtre Paul qui dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Ce verset a été mal compris parfois. Certains pensent que ça veut dire qu'il faut soi-même souffrir pour accomplir l'œuvre de Jésus-Christ, que, quand il dit « Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair », comme si Christ n'avait pas payé pour tous nos péchés. Si, il a tout payé, mais ce que veut dire l'apôtre Paul ici, c'est qu'il dit « Christ a souffert pour nous sauver, mais moi maintenant je souffre pour bâtir l'Église. Je souffre pour apporter l'Évangile. Je souffre pour que de nouveaux chrétiens avancent. » Et il y a des frères et sœurs dans le monde qui souffrent pour l'Église, pour qu'elle avance. Ils payent de leur vie, ils payent d'années de prison, des pasteurs qui passent 15 ans en prison, alors qu'ils ont une famille, parce qu'un jour ils ont ouvert leur maison, ouvert la bouche, ouvert la Bible. Alors ça doit nous faire réfléchir aussi, est-ce que moi je souffre pour bâtir l'Église ? Psaume 116, verset 15, « Elle a du prix aux yeux de Dieu la mort de ceux qu'il aime. » Elle a du prix aux yeux de Dieu la mort de ceux qu'il aime. Pour Dieu, ses frères et sœurs qui souffrent et meurent pour leur foi sont particulièrement précieux. On pourrait dire, mais pourquoi Dieu ne les délivre pas tous? Pourquoi ne sont-ils pas tous sauvés de la mort et de la prison? Parce que ça fait partie du lot chrétien. Nous sommes appelés à souffrir pour l'Évangile. Mais leur résurrection sera d'autant plus glorieuse. Leur entrée au ciel sera d'autant plus belle pour eux qui ont souffert pour leur foi. Elle a dû prier leur mort. Même si personne ne pense à eux, le Seigneur, lui, voit comment ils sont persécutés. Et puis le dernier verset que je voulais citer, 2 Corinthiens 1, 5. De même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. On peut souffrir pour l'Évangile, mais la consolation est d'autant plus grande, d'autant plus forte. Et quand on pense à ses frères et sœurs, on se dit « Oh là là, moi je ne sais pas comment je ferais. Si on tuait ma femme ou mon mari sous mes yeux, si on brûlait ma maison, mon église, qu'est-ce que je ferais? Je paniquerais, je ne sais pas. » Mais ici, il dit « La consolation abonde en même temps que les souffrances. » Je vais vous donner quelques histoires d'hommes et de femmes qui ont souffert pour leur foi. La source principale de mes informations, c'est l'association Portes Ouvertes, qui est une organisation qui informe, prie et aide les chrétiens persécutés dans le monde. Et donc, par exemple, lorsque un chrétien est arrêté et emprisonné de façon injuste, bien sûr, hein, juste parce qu'il est devenu chrétien, ils envoient des lettres au gouvernement, aux ambassades, ils font bouger l'opinion mondiale pour que cette personne puisse être libérée. Quand ce n'est pas le cas, ils envoient de l'aide à la famille. Ils envoient des lettres d'encouragement. Ils disent « on prie pour vous ». Ils envoient quelquefois des biens matériels ou des bibles aux pasteurs qui n'ont plus de bible ou aux personnes en difficulté, aux églises en difficulté. Ce n'est pas la seule organisation qui existe, mais c'est celle que nous connaissons principalement en France et qui nous informe sur tout ce qui se passe dans le monde. Le premier cas que j'aimerais citer, c'est un pasteur chinois qui s'appelle Shi Enhao. Il a 55 ans et il vient d'être condamné à 2 ans de prison dans un camp. Donc ce n'est pas juste une prison avec la télé et le frigo et la lecture et la gymnastique, c'est un camp. Donc en Chine, les camps de travail de prisonniers sont très très durs. Beaucoup meurent de manque de nourriture, de manque de soins, d'abandon. Il y a des tortures psychologiques aussi, on vous laisse seul, votre famille ne peut pas vous voir. Ce sont des conditions effroyables. Ce frère souriant, qui a 55 ans, vient d'être arrêté au mois de juin pour activité illégale dans la ville de Sukian, la province du Jiangsu. En Chine, les choses vont un peu mieux pour la liberté de culte, surtout dans les grandes villes. Mais néanmoins, l'État en général n'aime pas les églises clandestines, n'aime pas les chrétiens, parce qu'ils savent que ce sont les chrétiens qui ont fait tomber l'Union soviétique, le fameux mur. Ils se disent, s'ils ont pu faire tomber le mur, ils peuvent faire tomber notre gouvernement en Chine. Donc il vaut mieux les garder emprisonnés, les empêcher de trop se répandre. Mais plus il les persécute, plus ces chrétiens se multiplient. Il y a des églises de plusieurs milliers de personnes. Il y a des responsables qui ont sous leur coupe 10 000 ou 30 000 chrétiens. Nous, ce sont des chiffres qui nous semblent incroyables. Et ce ne sont que des églises dans des maisons. Ils se réunissent, volets fermés, lumière fermée, ils chantent par cœur. Et pendant des heures, là, la nuit souvent, eh bien, ils adorent le Seigneur et le servent, au prix parfois de leur vie. Le deuxième cas, c'est au Vietnam. C'est encore des pasteurs et leurs épouses qui se réunissaient le 16 novembre dernier. Ils faisaient partie de cette association Agapé Église Baptiste au Vietnam et ils étudiaient la Bible ensemble, plusieurs anciens, plusieurs pasteurs, là, dans une maison privée, chez le pasteur Nguyen Dan Cho, je ne sais pas comment on dit, je pense que c'est comme ça, dans le village de Lai Tao, commune de Bot Xuyen, district de Mi Duc. Je donne tous les noms pour que vous sachiez que c'est une vraie personne qui habite un vrai village dans une vraie maison. Pendant qu'ils se réunissaient, il était 9h30 du matin, un groupe d'hommes a fait éruption de force dans la maison, avec des bâtons, et ils ont commencé à frapper tout le monde. Femmes, hommes, coup de pied dans le visage, dans le ventre. Ils ont été très violemment meurtris. Ils ont essayé de s'échapper, ce groupe d'hommes les a empêchés et est sorti dans le village en criant « Au secours, des pasteurs sont en train de frapper des villageois !» Donc ils ont accusé les pasteurs de frapper les villageois. Les villageois sont tous sortis de leur maison ou venus de leur champ pour s'attrouper autour de la maison en disant « Mais c'est pas possible, c'est scandaleux !» Et ces chrétiens n'ont pas pu se sauver puisque toute la foule était là autour, prêts à les lyncher. Finalement, tout s'est calmé au bout d'un moment. Ils ont pu, certains, être amenés pour être soignés, mais notamment une femme, et puis ce pasteur ici, Nguyen Duy Duong, c'est un des pasteurs qui a été violemment meurtri. Ça ne les empêche pas de continuer à se réunir. Le Vietnam est un pays qui persécute beaucoup les chrétiens, mais maintenant ils le font de façon déguisée. Jusque-là, c'était le gouvernement, mais le gouvernement a dû, par pression internationale, arrêter un peu les persécutions officielles. Alors ils payent des milices pour aller frapper les chrétiens, brûler les églises, etc. Donc ça continue pour eux, mais ils continuent aussi d'annoncer l'évangile, de se réunir autour de la Bible, même si ils peuvent risquer leur vie. Autre cas, c'est à Cuba. On ne parle pas beaucoup de Cuba et l'Évangile. Ici, on a une image d'une assemblée évangélique à Cuba. Il y a du monde, c'est merveilleux de voir ça. C'est un pays où on n'a pas le droit tellement d'être chrétien, en tout cas ouvertement. C'est un pays qui était une dictature pendant longtemps, communiste. Mais maintenant, les choses s'ouvrent puisque Fidel Castro est en retrait. Il y a un peu plus de liberté. Et alors, on a interrogé un pasteur là de Cuba. Quel est le rêve pour votre pays? Il dit « Maintenant, j'aimerais gagner des cœurs pour Christ, malgré les difficultés. » Il manque de tout là-bas. Il manque de Bible. Il manque de bâtiments pour se réunir. Et quand un chrétien se convertit, il suit des cours avec la Bible de l'Église qu'on lui prête. Et quand finalement il est baptisé, là on lui offre une Bible. Mais on ne peut pas donner des Bibles aux gens parce qu'il n'y en a pas assez sur place. Et puis le pasteur dit, il nous faudrait plus de pasteurs avec une bonne formation biblique qui pourraient être de vrais dirigeants pour les assemblées. Alors s'il y a quelqu'un parmi nous qui est hispanophone, qui pourrait être pasteur, pensez à Cuba. Seuls les bâtiments religieux existants avant 1959 ont le droit d'être utilisés comme église. Donc si vous êtes une nouvelle église, vous ne pouvez pas vous réunir parce que si votre bâtiment n'est pas d'avant 1959. Autant dire, c'est très difficile. Il nous est impossible d'obtenir un permis de construire pour bâtir une église et nos maisons sont maintenant trop petites pour accueillir tout le monde. Mais les chrétiens cubains ne baissent pas les bras, ils se réunissent en plein air. Ils se prêtent leur Bible. Et comme ils n'ont pas le droit de parler de Jésus en dehors de l'église, ils ouvrent grand les fenêtres chez eux pour que les paroles des cantiques et les messages soient entendus des gens du dehors. Vous voyez, ils ne se laissent pas abattre. Ils ont plein de problèmes, de difficultés, d'empêchements, d'interdits. Mais ils continuent, ils se prêtent leur Bible, ils chantent fenêtres ouvertes. Ça, c'est encourageant, c'est quelque chose d'extraordinaire chez ses frères et sœurs. Un autre exemple, c'est au Kenya. Il s'agit de Hassan. Alors ici, la photo est étrange, mais Hassan et sa mère ici. Hassan, c'est un homme, un jeune homme de 25 ans. Et sa mère, il se cache parce qu'ils sont toujours menacés de mort. Lui, il est allé se réfugier au Kenya, il est somalien. En Somalie et au Soudan, il y a des persécutions atroces. Alors là, c'est vraiment des massacres, carrément. Et donc, il est allé se réfugier dans un camp au Kenya. Et là, d'un seul coup, alors qu'il allait faire des courses, il a été attaqué par une bande de jeunes islamistes. Pourquoi l'ont-ils attaqué? Parce qu'ils ont dit, puisque cet homme est né en Somalie, il est né musulman, il ne peut pas être chrétien. Donc la loi, la charia, nous oblige de le tuer. C'est un musulman qui a renié sa foi, c'est un apostat, nous devons le tuer. Donc ils l'ont laissé pour mort dans la rue. Finalement, il s'en est sorti. Il s'est pris des coups de barre de fer, de gourdin, des coups de couteau. On lui a enlevé ses vêtements et on l'a piétiné. On l'a déposé ensuite sur le parvis d'une église protestante. C'est là qu'il a été trouvé, conduit à l'hôpital. Il se remet doucement. Sa maman dit « Ce qui est arrivé à mon fils est l'aboutissement des menaces que j'ai reçues de la part de mes voisins. Ils avaient deviné que nous étions chrétiens, ils ont entendu les petits chanter des cantiques et ils pensent même que je suis une responsable d'église, de maison que nous fréquentons. À présent, nous devons déménager. » Ça, c'est un cas parmi des centaines. Comme ça, en pleine rue, pour aucune raison que d'être chrétien, il a été frappé, massacré. La Colombie, l'Amérique du Sud, on parle beaucoup de l'Afrique, de l'Asie, l'Amérique du Sud est touchée. En Colombie, il ne fait pas bon être chrétien. Les FARC sont des ennemis farouches. Ici, on a une photo de soldats des FARC, des forces rebelles colombiennes. Ils sont profondément anti-chrétiens. Et ils tuent les chrétiens évangéliques en particulier, surtout si ces chrétiens sont aidés par des Américains, puisque les Américains aident le gouvernement colombien à lutter contre les FARC. Début août dernier, les FARC ont ordonné à plus de 20 églises de la province de Meta, Guaviare et Norte de Santander de fermer leurs portes. Donc 20 églises qui ont été obligées de fermer. Dans ces zones rurales, les chrétiens sont privés de culte, d'études bibliques. Ils n'ont plus le droit de prêcher l'évangile. Certains pasteurs ont décidé d'organiser secrètement des réunions chez eux. Alors là, eux, ils risquent leur vie à toute minute. On dit « fermez les églises », ça veut dire « fermez-les » ou « on vous tue ». Parce qu'eux, ils tuent sans vergogne. Mais ces pasteurs disent « on ne va pas se laisser abattre, on va se réunir en secret dans nos maisons ». Dans la province de Norte de Santander, les rebelles des FARC se réorganisent, parce qu'ils ont eu beaucoup de pertes en ce moment, et ils enrôlent de force dans leur rang des jeunes des villages. Et ils enrôlent aussi des enfants de chrétiens. Imaginez, vous avez un enfant de 12-13 ans, que vous enseignez dans la parole de Dieu, qui aime le Seigneur, et les FARC arrivent chez vous, hop, mettent le grappin dessus, maintenant tu vas devenir un soldat avec nous. Imaginez votre détresse, vous n'allez peut-être plus jamais le revoir, vous ne savez pas ce qu'ils vont faire comme endoctrinement, comme lavage de cerveau. Votre jeune enfant, ils prennent des de plus en plus jeunes. Les chrétiens sont mal considérés parce qu'ils veulent rester neutres dans le combat entre la guérilla et le gouvernement. En tant que chrétiens, ils ne prennent pas parti pour l'un ou pour l'autre, le gouvernement n'est pas saint non plus, Mais le fait qu'ils soient neutres fait que les FARC les haïssent. En fait, ils sont haïs par tout le monde avec cette histoire. En 2008, deux chrétiens avaient été tués parce qu'ils avaient refusé de voter pour le candidat des FARC. Dernier cas que j'aimerais citer ce matin, c'est en Iran. L'Iran est en train de monter dans l'indice de persécution. Le pays d'Iran est en train de se fermer au monde. Vous avez vu ce qui se passe avec la bombe atomique, mais les églises là-bas sont en train d'être fermées, persécutées, les chrétiens pourchassés. Ici, vous avez un pasteur et sa femme, un pasteur d'origine arménienne, Vahik Abrahamian, qui est un arménien et iranien, parce qu'il y a une communauté arménienne en Iran. En août 2011, le 29 août, il a été libéré de prison. Il avait passé 359 jours, donc quasiment un an, dans la fameuse prison d'Evin, c'est ça. La fameuse prison d'Evin qui est assez connue pour être terrible. C'est-à-dire, c'est un camp, là aussi, où vous êtes torturé, persécuté, livré à vous-même, seul pendant des jours, des nuits, dans le noir, sans manger, sans boire parfois pendant des jours, des conditions atroces. Il a passé un an dans ce camp. Un an là-bas, ça vaut 10 ans ou 15 ans dans une prison normale, Pourquoi l'a-t-on arrêté? On l'a accusé d'avoir parlé de l'évangile à des Iraniens et d'être en contact avec des chrétiens d'autres pays. Mais il a finalement été libéré par la pression internationale, justement, qui a parlé de son cas. Moi, je n'en avais pas entendu parler, je ne pense pas que vous en ayez entendu parler. Souvent, on parle des otages à la télévision, dans les informations, mais on parle très peu des chrétiens retenu en otage. Là, c'est un pasteur. Sa femme avait été arrêtée avec lui. Elle a été relâchée plus tôt. Elle s'appelle Sonia. Vahik Abrahamian était un toxicomane qui vivait en Hollande. Il s'est converti aux Pays-Bas, il a été libéré par le Seigneur de son addiction à la drogue et il est retourné en Iran, donc auprès de sa communauté arménienne, pour évangéliser les drogués et les prostituées. Ils avaient déjà été arrêtés et là, donc, il a été à nouveau arrêté pendant un an. Si la foi chrétienne progresse en Iran, il n'y a que 450 000 chrétiens recensés sur 75 millions d'habitants. Et ces 450 000 sont sévèrement pourchassés. J'ai encore un cas en Irak, c'est ça? Ou c'est fini? T'as plus de photos. Donc c'est fini pour les photos, mais j'aimerais vous parler très vite de Daoud, qui est un jeune homme d'Irak et qui est vraiment encourageant. En Irak, la persécution est féroce contre les chrétiens, c'est-à-dire les musulmans d'Irak chassent tous les chrétiens, ils ne veulent plus aucun chrétien sur leur territoire. Donc ceux-ci en général fuient dans le Kurdistan, qui justement protège les chrétiens au nord de l'Irak. Mais Daoud, lui, il habite Mossoul. Mossoul, c'est une des villes musulmanes avec beaucoup de violence. Et il connaît le Seigneur, il est chrétien, et il a choisi de rester à Mossoul. Et il veut prier pour sa ville. Qu'est-ce qui l'a encouragé à prier? C'est en lisant l'histoire de Jonas. Jonas est allé prêcher à Ninive. Or, Ninive, hein, c'est en Irak. Donc, c'est dans son pays. Et il dit... La ville s'est repentie. Alors moi aussi, je veux prier et prêcher à Mossoul pour que la ville soit touchée. Un jeune homme, Daoud. Et alors, au début, c'était seulement lui et sa famille qui priaient, puis d'autres chrétiens les ont rejoints. En septembre 2011, ils se réunissaient tous les mardis et tous les samedis entre 17h et 19h. Ils sont une cinquantaine à prier pour leur ville, malgré les persécutions. Son pasteur est pasteur à Mossoul, son père, pardon, est pasteur à Mossoul, et il dit que le climat religieux s'est amélioré à partir du moment où l'Église a commencé à prier pour la ville. Pour eux, c'est certain, Dieu écoute leurs prières. Daoud, qui a 21 ans, déclare « Grâce à nos prières, la ville a commencé à changer. Aujourd'hui, le climat n'est plus le même. Ce que je constate, c'est que les jeunes de ma génération ne veulent plus partir. Nous voulons rester. C'est là que Dieu m'a placé. J'y reste. Si je dois être tué ici, qu'il en soit ainsi. » Aujourd'hui, il n'y a que 345 000 chrétiens qui restent en Irak, alors qu'il y en avait plus d'un million au temps de Saddam Hussein. Et ce chiffre de 345 000 est en diminution permanente. C'est pareil dans les territoires palestiniens du Hamas, hein, à Gaza par exemple. Les chrétiens sont de plus en plus persécutés, menacés de mort et doivent fuir. J'aimerais vous donner un dernier exemple au Pakistan, qui est un des pays les plus persécuteurs aussi à cause de l'islam. C'est un chrétien qui s'appelle ADL Kashif. Un charpentier, hein, il a le métier du Seigneur. Et il avait un petit champ qu'il exploitait tout en faisant son travail de charpentier. Et un groupe de musulmans de son village sont venus un jour l'attaquer en plein champ pour lui prendre sa terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été dans sa maison, ils ont jeté dans la rue tout ce qu'il y avait dans sa maison, tous ses meubles. Ils ont tout brûlé. Ils ont pris les trois femmes qui vivaient avec lui, non pas ses trois épouses, hein, mais j'imagine sa femme, peut-être sa fille et puis une tante. Hein, et ils les ont dénudées dans la rue et torturées sous ses yeux. Ensuite, d'autres chrétiens du village, ayant entendu qu'il se passait quelque chose, se sont approchés. À ce moment-là, les agresseurs avaient des armes, ont sorti leurs armes et ont tiré dans le tas. Il y a eu au moins un mort, un jeune homme de 25 ans, Sajid Bachir Massi, et 21 blessés, dont des femmes et des enfants. 6 d'entre elles, des femmes, sont dans un état critique. Finalement, la police est arrivée bien tard. 16 personnes ont été arrêtées, mais les principaux suspects qui ont tiré courent toujours. Là encore, il y a des chrétiens au Pakistan, des chrétiens en Afghanistan, des chrétiens en Irak, des chrétiens en Palestine... Mais leur vie est extrêmement compliquée, menacée, surtout quand il s'agit de vos femmes et vos enfants. C'est peut-être pire que de se faire soi-même arrêter. Et pourtant, ces chrétiens, vous les avez entendus, ça ne les arrête pas. Je resterai là, je vais prier pour ma ville. Je vais continuer, on va se réunir en secret. On ne veut pas nous autoriser, on va se réunir en secret. On ne veut pas nous donner un local, on va aller dehors en plein air. J'admire et je trouve ça encourageant, cette persévérance. Et c'est pour ça que je voulais rendre hommage à ces frères et sœurs qui n'ont pas honte de l'Évangile. Parce que quand ils ouvrent la bouche, ils risquent la prison, la mort. Et nous, en France, est-ce que nous avons honte de la bonne nouvelle ? Beaucoup de personnes, même qui viennent de pays très chrétiens, quand ils arrivent à Paris ou en France, ils arrêtent quasiment leur vie chrétienne parce qu'ils disent « Oh là là, c'est un pays vraiment où il n'est pas bon de parler de Dieu, les gens ne veulent rien entendre. » Et j'ai vu beaucoup de chrétiens zélés dans leur pays qui, en France, avaient perdu presque leur foi. Et pensons à ces frères et sœurs, ces prisonniers qui, eux, ne perdent pas leur foi malgré tout ce qui leur arrive. Ils ont moins de confort, moins de liberté, moins de protection. L'État, souvent, est contre eux, hein, ne les protège pas. La police est la première à les arrêter et à les condamner. Et pourtant, ces chrétiens, ils prient plus que nous. Ils témoignent plus que nous. Ils se réunissent plus que nous. Ils aiment la Bible plus que nous. Ils ont plus de ferveur que nous. Et ils ont plus de joie que nous, malgré leur souffrance. Qu'est-ce qui ne va pas, quelquefois, avec nous, hein ? C'est qu'on s'est laissé endormir par les soucis du manger et du boire. On s'est laissé endormir par notre petit confort, qui est en train d'ailleurs de s'envoler, hein, à grand tir d'aile. Et c'est bien quelque part. Ça va nous montrer ce que c'est la réalité de la vie, et ça va nous obliger à nous serrer les coudes, à être solidaires, à nous entraider, à ne plus compter sur le Dieu-État, mais à compter les uns sur les autres et surtout sur Dieu, parce que nous avons un grand Dieu. Pour cette période de Noël, je vous invite à vous informer sur ces chrétiens. Si vous avez Internet, il y a le fil rouge de Portes Ouvertes. Vous pouvez vous abonner, recevoir les nouvelles et prier. Vous pouvez écrire, pour défendre ces chrétiens qui sont en prison, condamnés à mort, comme ce pasteur iranien qui est condamné à mort. Et pour l'instant, sa sentence est retenue, mais on ne sait pas quand il sera exécuté. Ça peut être d'un jour à l'autre. Et c'est une torture psychologique terrible de vous dire, d'une minute à l'autre, un soldat peut rentrer dans ma prison et dire « Monsieur, nous allons aller au lieu de votre condamnation ». D'une minute à l'autre, mais ça fait des jours qu'il attend, des semaines, des mois. Il ne sait pas quand, et peut-être qu'un jour on va le libérer, mais il ne sait pas quand. Et c'est quelque chose d'horrible d'être comme ça, sans savoir ce qui va vous arriver. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1, il est écrit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, donc je vous ai parlé de quelques-uns de ces témoins, rejetons tout fardeau, tout souci inutile, toute chose superflue qui nous empêche de servir le Seigneur. Et rejetons aussi le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la course qui nous est ouverte. Le Seigneur nous appelle à courir pour l'Évangile. Peut-être que ce matin, vous n'êtes pas chrétien ou chrétienne et vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur ces chrétiens ? Ils ne font rien de mal. Pourquoi est-ce qu'on les agresse comme ça gratuitement ? Pourquoi on ne supporte pas qu'ils deviennent chrétiens ? La raison principale, c'est vraiment une raison spirituelle et pas seulement politique. C'est que un chrétien est un enfant de Dieu et que les enfants du diable veulent tous les éliminer. Il y a une haine irrationnelle contre les chrétiens, surtout dans certains pays, surtout avec l'islamisme qui encourage, nourrit une haine permanente contre les juifs et contre les chrétiens. Et chaque fois qu'ils en croisent un, ils n'ont qu'une envie, c'est de le tuer. S'ils avaient une arme dans la main, ils le feraient. Et nous devons prier, évangéliser ces personnes aussi. Ils ont besoin, ces bourreaux, de réaliser que le vrai amour, il est auprès du Dieu de la Bible et pas de Allah ou pas de l'État communiste ou je ne sais quelle entité. Et vous, qui n'êtes pas encore chrétien, sachez que ce Dieu d'amour et de gloire, il veut pardonner vos péchés. Il veut entrer dans votre vie, faire de vous un enfant de Dieu. Vous serez sous la grâce de Dieu. Il sera votre rocher, votre protecteur, votre sauveur. Et même si vous deviez souffrir à cause de votre foi, n'en ayez pas honte, n'en ayez pas peur, parce que le Seigneur est votre soutien, votre ami fidèle. Nous avons des frères et sœurs dans l'Église qui souffrent par leur famille, parce qu'ils sont d'ex-musulmans, et leur famille les rejette, leurs amis, leurs collègues, mais ils sont joyeux, et pour rien au monde, ils ne reviendraient en arrière, parce qu'ils ont trouvé la lumière de leur vie, l'amour de Christ, le pardon de leurs péchés. Terminons par la prière.